7 h 34 minutes, vous êtes sur les ondes de Boulevard 102.1. Dans les prochaines minutes, on va se brancher avec Denny Gravel qui va venir faire son tour en studio pour parler de sujets d'actualité comme à chaque jour de la semaine dans le Pit Stop vers 7h55. Et dans quelques secondes, on va se brancher avec Nicolas Gagnon qui est directeur Québec pour la Fédération canadienne des contribuables. On va parler de Mark Carney et de son administration qui ont fait hier avec François-Philippe Champagne leur mise à jour économique de belles choses qui étaient déjà annoncées. Des petits trucs qu'on a annoncés hier qui ont surpris bien des gens. Donc Nick va nous décortiquer ça dans les prochaines secondes. 418-971-1021, si vous avez des choses à nous mentionné. Vous êtes nos yeux, nos oreilles sur la route, ne l'oubliez pas. Textez-nous 418-971-1021, Max.
C'est très tough ce matin, puis là, il y a des trucs qui s'ajoutent, là, 40 ouest hauteur, un peu après Henri IV, la voie de droite qui est bloquée par une panne. Henri IV nord, l'accès par l'avenue de Rochebelle s'est partiellement entravé en raison d'une panne. Traverser le fleuve en ce moment, là, par les deux ponts direction nord, c'est vraiment pas facile. La 40 est à partir, je vous dirais, de un peu passer Jean Gauvin jusqu'à Henri IV, c'est tough. Capitale Ouest, c'est jamais entre Seigneurial et Laurentienne. Et quand tu roules vers Shannon à partir de route Léo-Major, là, c'est pare-choc à pare-choc.
Ça se réchauffe vite ce matin. On est rendu à 11 degrés. C'est du soleil jusqu'à cet après-midi où là, ça va se transformer avec un peu de nuages. On parle d'un 30% de probabilité d'averse de pluie cet après-midi, maximum de 17. Ce soir, généralement nuageux avec un minimum de 9. Jeudi et vendredi, ça va se gâter côté météo. De la pluie pour demain, parfois forte, entre 15 et 25 mm annoncés. Des températures stables à près de 9 degrés. Vendredi, de la pluie maximum de 6. Mais samedi et dimanche, 2 et 3 mai, on parle d'une alternance de soleil-nuages pour samedi avec un maximum de 10. Et dimanche, une alternance de soleil-nuages avec un maximum de 11 degrés. Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables est avec nous ce matin. Salut Nick!
Bon matin, ça va bien?
Oui, on se parle beaucoup ces temps-ci. Aujourd'hui, on se parle en raison de la mise à jour économique, le fameux fonds là, qu'on a créé, que je trouve juste hallucinant. On appelle ça le fonds souverain. C'est un fonds souverain qui est sans épargne, on va se le dire. Ils ont copié un peu le modèle de la Norvège, sauf que la Norvège avait fait ce fameux fonds-là avec les surplus d'argent de la vente de pétrole. Et on prenait cet argent-là puis on la réinvestissait. Nous, ce 25 milliards de dollars-là dans ce fameux fonds qu'on vient de créer, fonds souverain, ben on va l'emprunter avec un fort taux d'intérêt. J'ai hâte de voir quel positivisme qui va ressortir de tout ça. Là.
Ben oui, parce que je veux dire, ce fonds-là, il a souverain que le nom. Essentiellement, comme tu l'as mentionné, c'est inspiré de ce qu'on voit dans d'autres pays, notamment en Norvège, où est-ce que le fonds souverain a été quand même constitué en très grande partie, c'est pas exclusivement avec soit des surplus du gouvernement ou avec des revenus sur le pétrole et sur le gaz. C'est la même chose dans un paquet de pays du Moyen-Orient, comme le Qatar, le Bahreïn, etc. Donc, généralement, c'est ça. On fait un fonds souverain pour faire des investissements quand on a des surplus, quand on a une capacité pour le faire. Là, on a un gouvernement qui est ultra endetté, puis on décide de créer un fonds à partir de la dette, essentiellement. Puis c'était pas mal la plus grosse annonce qui était dans la mise à jour économique d'hier. Donc, c'est 25 milliards de dollars qu'on va prendre au courant des prochaines années pour construire ce fonds-là, qui s'appelle essentiellement un fonds pour un Canada fort.
C'est 25 milliards qu'on va ajouter sur la dette pour faire des investissements.
Exactement. C'est pas des revenus tirés du pétrole, par exemple, qui se retrouvaient dans un fonds spécifique. Là, c'est carrément de l'argent qui est emprunté essentiellement sur le dos de l'ensemble des contribuables pour faire des investissements ciblés dans des projets d'infrastructure, dans des entreprises. Bref, on n'a pas encore de spécifications là-dessus. Par contre, ce qui est quand même important à considérer, c'est qu'à la fin de la journée, ce fonds-là, il est en aucun cas différent de ce qu'on appelle un slush fund en anglais. Les slush funds, là, je fais souvent la blague que le fonds vert au Québec, c'est un slush fund parce que, oui, bon, on met des revenus là-dedans, mais à la fin, il sert à distribuer des subventions à peu près à n'importe qui. Dans ce cas-ci, ça pourrait mener à peu près à la même chose. Puis en plus de ça, le gouvernement Carney veut inviter les Canadiens à investir dans ce fonds-là. Mais on s'entend que, je veux dire, déjà à partir du moment qu'on emprunte de l'argent pour investir, c'est totalement stupide. C'est comme si vous alliez faire un prêt de 50 000 $ pour le mettre dans votre compte épargne. Mais l'affaire, c'est que si votre prêt vous coûte plus cher en intérêt que le rendement de votre compte épargne, vous êtes perdant.
Ça n'a aucun sens.
Malheureusement, c'est ce qui pourrait arriver dans ce cas-ci.
J'ai des petites questions pour toi. Bon, on sait d'où va venir l'argent. L'argent va venir de l'argent des Canadiens. Le coût d'emprunt sur 25 milliards, ça, c'est décidé au combien de temps? Comment ça va coûter emprunter 25 milliards avec intérêt? À un moment donné, il va falloir que Mark Carney nous le mentionne. Le rendement minimum, quand on va prêter de l'argent à une entreprise, quand on va investir, c'est quoi le rendement minimum qui va être acceptable pour que les contribuables canadiens soient gagnants?
Ben c'est très difficile à déterminer. On va se dire, franchement, il faut que le rendement soit supérieur au coût de l'endettement pour créer ce fonds-là. Donc, déjà, c'est pas gagné d'avance parce que les taux d'intérêt sont quand même relativement élevés. Puis, en même temps, il faut aller chercher un rendement
Parfait.
élevé sur des projets qui vont être ciblés. Notamment, tu as des projets d'infrastructure, tu as des projets dans les énergies renouvelables. On inclut aussi des projets dans les pipelines. Donc, on imagine qu'il va y avoir éventuellement un financement d'une telle infrastructure via un tel fonds. Sauf que bon, j'ai à rappeler que la dernière fois que le gouvernement fédéral a financé un pipeline, c'est supposé coûter 6 milliards, puis finalement, ça a coûté 35 milliards. Je me dis que, puis les rendements, on a hâte de voir où est-ce que ça va nous emmener avec Trans Mountain. Ben, généralement, c'est une infrastructure qui est rentable, mais le coût, par exemple, lui, il va être dur à compenser. Donc là, c'est dire, ça va être quoi le rendement exact? C'est très difficile à déterminer. Puis ça, comment dire, c'est un gros problème parce qu'il faut rappeler que depuis le dernier budget de Mark Carney, on a décidé de diviser les opérations du gouvernement ou le budget en deux. Vous avez un budget des opérations puis un budget des investissements. Mais les investissements se font presque exclusivement à partir de déficits. Mais on n'a pas vraiment de compte rendu ou, comment dire, d'évaluation par rapport à ce que ça va ramener à l'économie puis le rendement ultimement de tous ces investissements-là, à savoir si ça va compenser l'endettement via les déficits qu'on aura cumulés ou si finalement on aura juste pelleté de la dette par en avant puis perdu de l'argent dans des paris comme on le fait si souvent là, via des subventions aux
Fait
entreprises.
que je continue avec la fameuse patente à gosse qu'on vient de créer, le Fonds souverain du Canada, où on va mettre 25 milliards de dollars. Le conseil d'administration, ça va prendre un conseil d'administration. Qui est-ce qui va placer des gens au conseil d'administration qui va faire en sorte qu'eux vont décider où est-ce qu'on place l'argent? Ça va être qui, les gens du conseil d'administration? Qui vont les mettre en place?
Je faisais la blague hier. Sûrement un des cinq transfuges qui s'est ramassé par pur hasard au Parti libéral. Ça serait tout un hasard. Mais non, mais pour vrai, c'est une bonne question parce que c'est sûr et certain que ça a des nominations partisanes.
Ben oui.
Maintenant, je pense pas que ça va venir de la Chambre des communes quand même. Mais il n'en reste que ça pourrait venir de n'importe qui, de l'entourage direct ou indirect de Mark Carney. Moi, ce que j'espère, c'est que c'est des gens qui vont. Bon, en tout cas, dans tous les cas, je pense que ce fonds-là n'avait pas de raison d'exister. Mais si on est pour avoir un tel fonds, il vaut mieux avoir le moins que possible. Ben, en fait, vaut mieux avoir aucun conflit d'intérêts, surtout considérant qu'on met 25 milliards là-dedans. Il faut se rappeler que ce 25 milliards-là, c'est un seed money. En fait, le but, c'est d'attirer des fonds. Des fonds de pension, des prêts ou des investissements venant des contribuables comme tel. Et c'est très similaire à une tactique qui a été imitée un peu par Brookfield il y a quelques années. Ils ont voulu faire la même chose, Brookfield, qui est
Exact.
l'ancienne entreprise de Mark Carney.
Ben,
Et
qui est
qu'eux autres
l'ancienne
ont fait la même chose.
entreprise, qui est l'ancienne entreprise de Mark Carney où Mark Carney a encore des intérêts, là.
Oui, exactement. Puis là, bon, on se dit, est-ce que Brookfield va se rapprocher de ce fonds-là? Bon, on va être de bonne foi, on va laisser les choses aller, mais c'est vrai que quand même, tu sais, il n'y a jamais de fumée sans feu, puis avec ce fonds-là, ben, on peut s'imaginer que le feu est quand même mal caché. Là, on va se dire, franchement, les conflits d'intérêts pourraient survenir assez rapidement. Puis à la fin, ben, moi, ce qui compte le plus, c'est d'un point de vue des contribuables, parce qu'on va perdre évidemment 25 milliards là-dedans. J'ai comme l'impression que c'est là-dedans qu'on s'en va, surtout que ce n'est pas un fonds souverain, il faut le rappeler. Et rappelons encore une chose. La plupart des fonds souverains dans la sur Terre, c'est pas la quasi-totalité, ils font pas des investissements locaux. La Norvège, par exemple, son fonds souverain investit à l'étranger. Ça évite justement de créer de la distorsion en faisant des subventions aux entreprises qui vont favoriser un joueur gagnant versus un autre dans une économie locale. Puis ça permet aussi d'éviter les conflits d'intérêts, ce genre de choses-là. Donc là, c'est pour ça que finalement, c'est pas un vrai fonds souverain, mais ça va nous coûter cher.
Est-ce que je me trompe? C'est peut-être ma non-confiance envers les policiers, là, mais est-ce que je me trompe où Mark Carney vient de se débloquer un 25 milliards pour faire la promotion du Parti libéral à la grandeur du Canada?
Ah, je sais pas. C'est une bonne question. Mais moi, je pense que d'une manière ou d'une autre, il va falloir vraiment être très vigilant à savoir comment cet argent-là va être utilisé. Mais dans tous les cas, comme je disais initialement, ça va ressembler beaucoup à un slush fund. Ça va ressembler au fameux fonds vert au Québec. Ça va ressembler au fonds de développement économique qu'on a au Québec, le fameux fonds de développement économique dans lequel Pierre Fitzgibbon avait bien pigé pour aller distribuer de l'argent, puis dans lequel on a perdu pas loin de 6,4 milliards. Donc, ça va nous rappeler rappeler pas mal ce genre de choses-là. Encore une fois, j'espère me tromper. J'espère que finalement, ce fonds-là, par un pur hasard, ça va te donner du rendement de fou. Puis que finalement, tout ce que j'aurais dit aujourd'hui va être oublié. Mais l'histoire me donne malheureusement raison quant à mes craintes là, sur ce genre de manipulation de l'argent des contribuables.
Nicolas, également, Mark Carney s'est dit, t'es très, je le paraphrase, là, mais c'est, fallait pas se faire d'idées par rapport au fait que Christine Fréchette allait aux États-Unis, rencontrer les gens là-bas, que les négociations sont difficiles avec les États-Unis. Donc, je me dis que ce fonds-là devrait servir à diversifier l'économie avant tout. Alors, avec les intérêts de l'Europe, avec le développement que Mark Carney veut faire, suis-je dans l'erreur?
Ben oui, ça fait partie de sa stratégie ultime parce que récemment, je pense que dans ses commentaires, Mark Carney a dit qu'il fallait pas se faire d'attente par rapport aux États-Unis, que ça va pas se régler, même si Donald Trump s'en va, ça risque de rester le même climat avec les Américains. Ce que je dis, ce que je considère qui est totalement faux. En passant, moi, je pense que Trump, s'il s'en va, que ce soit les républicains ou les démocrates, il va avoir un changement de ton assez important au niveau des négociations commerciales. Mais on s'entend que c'est dans l'intérêt de Mark Carney de maintenir ce climat-là parce que si on est dans un climat de tension avec les Américains, on est donc automatiquement dans un climat d'urgence, si on veut, parce qu'on s'entend qu'une bonne partie de notre économie est dépendante de nos relations avec les Américains. Donc, si elles sont constamment sous tension, ça donne toujours comment dire, la marge de manœuvre ou l'argument pour justifier des investissements stratégiques ciblés, toujours au nom de, ben, on n'a pas le choix, il faut développer notre économie parce qu'on ne peut plus dépendre de nos relations avec les Américains. Mais moi, je m'excuse, mais c'est comme jeter le bébé avec l'eau du bain, là. C'est littéralement de se débarrasser de toutes nos relations du jour au lendemain, comme si en quelques... Ben, on s'entend, là, Trump il est là depuis quoi? Depuis janvier 2025, officiellement, il est en poste depuis ce temps-là. Et là, on est rendu en avril 2026, on est rendu à remettre en question complètement les 100 dernières années de relations économiques qu'on a avec les Américains à cause d'une administration qui va devenir lame duck fort possiblement cet automne. Fait que je pense que Carney a 100% tort là-dessus. Faut arrêter de penser là, d'un point de vue fataliste que c'est la fin de nos relations avec les Américains puis il faut complètement changer. Je suis d'accord par contre que notre économie doit se diversifier. Mais elle doit pas se faire à travers des paris avec l'argent des contribuables comme c'est notamment le cas avec le fonds souverain. Ça doit être fait notamment en créant un environnement fiscal et économique qui est beaucoup plus compétitif, plus productif. Et aussi, oui, je suis d'accord quand même de nous rapprocher d'autres partenaires commerciaux, mais ça ne veut pas dire qu'il faut se débarrasser de nos relations avec les Américains pour autant.
Avec la Fédération canadienne des contribuables, bon, vous avez épluché la mise à jour économique du gouvernement Carney. Nicolas Gagnon, est-ce que tu as trouvé quelque chose de positif pour le contribuable canadien?
Oui, ben, quand même, quelques mesures, c'est rare que je suis content, tu sais, oui, il y a des bonnes nouvelles parce que la mise à jour économique, pour ceux qui ne savent pas, c'est généralement juste, c'est comme un mini budget. C'est pour nous mettre à jour par rapport à ce qui a été présenté dans le budget il y a 6 mois. On se rappelle qu'il y a un budget qui a été présenté à l'automne dernier. Là, c'est la mise à jour, c'est-à-dire, est-ce que les chiffres tiennent la route depuis ce qui a été présenté, puis est-ce que les nouvelles mesures annoncées sont comptabilisées? Ben justement, parlant de mesures annoncées qui sont confirmées, qui est pas tout à fait une nouvelle, en fait, on a la fameuse suspension de la taxe sur l'essence, pardon, de 10 cents par litre d'essence. Ça, c'est comptabilisé jusqu'à la fin du travail, donc la première semaine de septembre. Ça représente quand même 2,4 milliards de dollars qui vont rester dans les poches des automobilistes. On a aussi, bon, ça, je chiale contre ça, mais bon, ceux qui veulent s'acheter une voiture électrique vont être contents parce que le crédit pour les véhicules électriques réapparaît officiellement. 5 000 $ pour l'achat d'une voiture électrique ou des hybrides rechargeables. C'est une mesure qui va coûter 2,3 milliards de dollars cette année au compte pour les contribuables. Bien sûr, il y a une affaire intéressante, puis ça m'affecte, c'est pour ça que je suis content. C'est le report du rap sur 5 ans. Pour ceux qui vont rapper, par exemple, pour acheter une maison, donc ils vont prendre leur REER, je pense que c'est le gap aussi, je pense que c'est possible, je suis un peu moins calé là-dessus, mais de mon côté, j'ai pris mes REER pour acheter une maison. Vous pouvez le faire en allant jusqu'à 60 000 $ de vos REER pour faire un cash down, sauf que normalement, vous devez commencer à rembourser après 2 ans, puis vous rembourser sur une période de 15 ans. Sauf que là, c'est reporté sur 5 ans. En fait, jusqu'à 5 ans, vous avez jusqu'à 5 ans pour faire le premier paiement sur le RAP. Et puis bien sûr, ça reste quand même sur la même période de 15 ans. Donc, rendu là, c'est une question de comment est-ce que chacun gère ses finances, mais il n'en reste que ça permet à certains de comment dire, d'épargner un peu ou sinon de respirer avant la date fatidique où vous aurez à rembourser à la fois votre rate et votre hypothèque et les taxes et les impôts. Bref, tout ça qui arrive en même temps, ça peut être lourd pour le portefeuille. Sinon, pour le reste des mesures qui ont été annoncées, c'est vraiment des mesures ciblées. Bien sûr, on peut ramener là, la bonification du crédit de TPS ou l'allocation épicerie qui va être bonifiée là, qui surtout rentre en vigueur à partir je pense en juin le prochain ou en juillet 2026, que officiellement la hausse des versements va se faire ressentir. Donc ça, c'était déjà annoncé auparavant. Mais pour le reste, il n'y a pas de baisse d'impôts, il n'y a pas de baisse de taxes non plus. Il y a des crédits d'impôts là, pour les personnes atteintes d'un handicap. Il y a on parle aussi d'une aide potentielle pour les médias. À titre de rappel, on sait qu'au provincial, on a récemment donné 65 millions de dollars aux médias. Là, au fédéral, on va aller plus loin. On veut faire une consultation avec un comité, consulter des groupes à travers tout le pays pour savoir comment est-ce qu'on peut aider les médias, bien sûr, avec des programmes de subvention, que ce soit des crédits
Parfait.
d'impôt ou crédits pour les salaires, etc.
Nicolas Gagnon, c'est toujours un plaisir. Je te souhaite de passer une super de belle journée. Merci d'avoir été des nôtres ce matin.
Ben, ça fait plaisir. Merci à vous et à très bientôt.
Salut,
L'excellent Nicolas Gagnon, directeur Québec pour la Fédération canadienne des contribuables. Pour en savoir plus sur la Fédération canadienne des contribuables, c'est contribuable avec un S.ca. Normalement, on parle à chaque lundi avec Nick pour se faire une petite mise à jour économique avec lui chaque semaine. Toujours très intéressant. 7h50, qu'est-ce qui se passe sur la route?
Il se passe un bon bordel, j'ai envie de te dire. Henri IV-Nord, accès par l'avenue Rochebelle de Rochebelle, c'est partiellement travé toujours en raison d'une panne. 40 Ouest, hauteur après Henri IV, la voie de droite qui bloquait en raison d'une panne. Beaucoup de rouge sur la carte, là, notamment secteur des ponts. Tout ce qui est passé de la rive sud à la rive nord, c'est compliqué. Capitale Ouest, ça me semble encore ben jammer. Puis après Seigneurial, jusqu'à un petit peu l'autre bord de Laurentienne. Capitale Est, des problèmes également du boulevard Masson à un peu passé Robert Bourassa. Sur Robert Bourassa, direction sud vers le boulevard Le Bourgneuf, c'est au ralenti également. Henri IV Sud, ça s'est quand même beaucoup amélioré, là, mais dans le coin de Chauveau-Ouest, reste quand même un ralentissement. Et quand tu roules vers Shannon à partir de la route Léo Major, c'est au rouge.
Merci beaucoup. Denis Gravel s'en vient pour le Pit Stop.
Pour nous informer de ce